jusqu'à midi. L'air de jeu.
Et jusqu'à midi, on passe du bon temps. C'est au Brenet qu'on va rejoindre Claire au-dessus du brouillard. Bonjour, comment ça va ce matin?
Mais bonjour Florian, ça va extrêmement bien. Et oui, on prend l'air. Et nous sommes donc, comme vous l'avez dit, au Brenet, juste à côté de la place du village qui est en travaux pour être magnifique et accueillante lorsqu'elle sera terminée. Un grand bonjour à vous tous et à vous toutes. Merci d'avoir choisi RTN et l'air de jeu. J'espère que si vous habitez les Brenets ou les alentours, vous allez vous arrêter et venir nous faire un petit coucou. Pourquoi pas jouer à l'un de nos jeux pour remporter des cartes cadeaux. On a également pour vous l'autocollant RTN pour être un jour l'autocollé sur RTN. On a les stylos RTN. Enfin, bref, on vous attend ici et nous allons vous emmener ce matin sur le Camino. Alors, c'est le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il y a plusieurs voies pour arriver à Santiago. Et ce n'est pas toujours de tout repos, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et pour témoigner de ce pèlerinage dont est sorti un livre, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce matin Suzanne Humbert, qui était enseignante à la retraite maintenant et qui s'adonne à l'écriture. Suzanne, bonjour.
Bonjour Claire. Tout d'abord, merci de m'avoir invitée pour partager avec vous et les personnes qui nous écoutent cette aventure merveilleuse qui a été pour moi le Camino de Santiago.
Et qui, comme je l'ai dit, n'a pas été toujours facile. On le verra tout au long de cette matinée. Alors, ma première question, Suzanne, c'est qu'est-ce qui vous a donné l'envie, qu'est-ce qui vous a motivé de faire ce pèlerinage?
Bon, ben déjà, je peux déjà dire que j'ai toujours été une grande marcheuse. J'ai toujours adoré les randonnées. Déjà toute petite, avec mes parents, on a beaucoup marché. Ensuite, avec mon mari et mes enfants, on adorait ça, les grandes balades dans la nature. J'ai perdu mon mari en 2009. C'était un vrai tsunami dans ma vie. J'ai vécu des moments très difficiles suite au décès de cet homme avec qui j'ai partagé énormément de choses. Et je me sentais un peu perdue et je crois que j'ai eu l'envie de faire des défis. Je pense que c'est ça qui m'a poussée à me lancer sur ce Camino. Un jour, j'ai écouté une conférence d'une dame suisse qui racontait qu'elle avait fait le Camino toute seule, en partant de chez elle, depuis son domicile en Suisse, jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne, ce qui représente environ 1500 kilomètres. Et puis, quand je suis sortie de cette conférence, je me suis vraiment sentie interpellée. Je me suis dit, tiens, ça c'est pour toi. Ça, tu dois le faire. Et puis en plus, ton mari, ton homme va t'accompagner parce qu'en fait, sachant que c'était aussi un parcours spirituel, je me suis dit que c'était aussi un hommage que je pouvais lui rendre.
Et puisque l'on parle de défi, voici le nôtre.
L'air de jeu, le défi.
Pour remporter la carte cadeau lundi qui est mise en jeu, Suzanne Humbert, vous allez nous dévoiler le défi.
Eh bien, j'aimerais bien voir arriver une personne qui soit équipée en marcheur, chaussures de marche, gros sac à dos et tous les accessoires qui vont avec, tout ce qui est possible. Ça peut être des bâtons de marche, ça peut être un chapeau de soleil ou une casquette ou une gourde qui pend sur le côté. Enfin, à votre idée, mais que ce soit qu'on voit et que c'est vraiment une personne qui s'apprête à faire une longue randonnée.
Le défi est lancé. Vous avez jusqu'à midi moins le quart pour le réaliser. Et puis, si le cœur vous en dit, vous voulez jouer avec nous, vous voulez rencontrer notre invité, n'hésitez pas, l'air de jeu, c'est jusqu'à midi, ici, au Brenet.
Envie de prendre l'air, jusqu'à midi, c'est l'air de jeu.
Retour donc au Brenet, il faudra un peu nous situer où vous êtes, j'imagine, Claire, au milieu du village.
Oui, on est le long de la Grand Rue, on est tout près d'une boulangerie bien connue, et juste à côté de la place du village qui est en train de faire peau neuve. Nous sommes en mode marche ce matin avec notre invitée Suzanne Humbert qui nous raconte au travers de ses anecdotes et de ses souvenirs son périple, son pèlerinage sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors il y a différents points de départ. Vous êtes partie d'où, vous, exactement, Suzanne?
Bon, disons qu'en 2018, j'avais déjà fait toute la France en partant de Puy-en-Velay jusqu'au bas des Pyrénées à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Qui est en Pays Basque.
En Pays Basque, exactement. Et j'avais terminé là. Ça représente environ 850 kilomètres. Normalement, je voulais continuer assez rapidement sur l'Espagne, Mais entre deux, il y a eu le Covid et ça a quand même pas mal retardé les choses. Et finalement, c'est l'année passée, en 2023, au 1er janvier, j'ai vraiment décidé que cette fois, j'irai. Et je me suis réservé un vol sur Saint-Sébastien pour continuer le chemin depuis Saint-Jean-Pied-de-Port sur Santiago de Compostelle.
Qui est vraiment l'arrivée finale devant cette fameuse cathédrale qui est juste magnifique.
Oui, c'est l'arrivée, effectivement. Il faut aussi tenir compte qu'on se rend encore après. Si on veut vraiment finir le Camino, il faut encore se rendre à Cap-Finistère, qui est vraiment ce qu'ils appellent le bout du monde. Et c'est là qu'il y a la borne zéro. Et c'est à cet endroit-là que le Camino se termine vraiment.
Donc, vous êtes partie toute seule. Il faut avoir une sacrée dose de courage pour faire un tel chemin seule. Mais j'imagine qu'ensuite, vous avez rencontré des compagnons de route, c'est ça?
Ah oui, alors franchement, il faut bien le dire que la rencontre, c'est vraiment un des moments super extraordinaires à vivre sur le Camino. On ne peut pas ne pas rencontrer du monde.
Et vraiment des gens qui viennent de partout. J'ai lu votre livre, il y a des Indiens, des Coréens, Chinois, enfin, le monde entier vient faire ce pèlerinage.
Ah oui, alors c'est vraiment très, très, très international. Et j'adorais dans les gîtes le soir, quand on avait notre souper. Dans certains gîtes, ils font des repas pour pèlerins. Et quand on se retrouvait, toutes ces grandes tablées internationales, ces échanges, mais c'était vraiment magique, quoi. C'était extraordinaire de se rendre compte à quel point l'échange de culture est riche.
10h, midi. Envie de prendre l'air. L'air de jeu.
On évoque aujourd'hui Jacques de Compostelle et ce périple que Susanna a fait.
Oui, Susanna Imbert qui a eu le bonheur de faire ce pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle. Et nous allons continuer à parler de ce périple. Donc vous êtes arrivée en France, dans le Pays Basque, c'était votre point de départ. Où est-ce que vous êtes allée ensuite?
Donc, ma première étape, ça partait donc du pied des Pyrénées à Saint-Jean-Pied-de-Port. La première étape était vraiment la plus dure. Ça représente quand même 26 km en tout, dont 20 km de montée, mais avec un dénivelé vraiment très, très violent.
On n'a pas envie de se dire, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais là?
Oui, mais en même temps, je me disais, tiens, au moins, la plus difficile sera faite. C'est ce que je me disais. Et puis voilà, il faisait un temps magnifique. J'ai eu la chance d'avoir un départ avec une météo extraordinaire. Et puis je me suis sentie portée. Au départ, je suis partie avec un grand Allemand, un monsieur qui avait des jambes interminables. On est partis ensemble depuis la porte de Saint-Jean-Pied-de-Port. Et j'ai senti en moins de 50 km que je ne pourrais pas le suivre parce qu'avec ses longues jambes, il était carrément, il volait littéralement. Puis là, je suis arrivée au bout de la première petite montée, il m'attendait tout souriant. Puis moi, j'étais déjà essoufflée, je n'en pouvais plus. Puis j'ai dit, écoute Christophe, ne m'attends pas, va à ton rythme. Bon, il n'a pas essayé de me faire changer d'avis, j'ai eu à peine le temps de le voir disparaître et puis voilà.
Parce que justement, on se rend compte sur votre livre que c'est un petit peu comme un carnet de bord. Et chaque jour, vous écrivez ce qui est arrivé. Et puis, il y a le nombre de kilomètres et puis aussi des couleurs. Est-ce que ça signifie orange, vert, rouge, la difficulté du parcours?
Exactement, c'est le niveau de difficulté. Et effectivement, alors la première étape, c'était franchement rouge. D'après le guide que j'avais, donc je suivais un petit guide, donc un petit livre. Ils indiquaient que la moyenne de temps, c'était 6h30. Ben moi, il m'en a fallu 10. Bon, le grand Allemand avec qui je suis partie est arrivé à Roncevaux à 13h30. Et moi, je suis arrivée à 17h30.
Et puis, chaque étape, ça représentait un peu plus de 20 km, un petit peu moins des fois.
Moi, je me suis fixé la moyenne de 20 à 25 km par étape. Bon, des fois, je vais en faire plus parce que je ne trouvais pas de gîte. On nous disait, vu que le Camino est de plus en plus couru, il y a de plus en plus de monde, au bureau de Saint-Jean-Pied-de-Port, à l'accueil, on nous disait, n'oubliez pas, réservez, parce que sinon vous n'allez rien trouver. Et puis moi, je refusais ça, parce qu'en fait, je trouve que de devoir tout réserver, ça enlève beaucoup de spontanéité. Et puis je me disais, bah finalement, en 2018, je n'ai jamais rien réservé, j'ai toujours trouvé. Mais là, j'ai quand même dû un petit peu m'incliner. Hein. Il y a quand même des fois où j'ai dû prendre un taxi sur quelques kilomètres parce que je ne trouvais rien, par exemple. Et puis, voilà, donc, en principe, je me disais, je vais là, mais il arrivait que je doive marcher. Une fois, j'avais prévu de faire 20 kilomètres et au final, j'ai dû faire 32 kilomètres parce que je ne trouvais rien.
L'air de jeu avec Claire et Florian.
Et on va retourner au Brenet où on vous rappelle ce défi qu'on vous a lancé tout à l'heure, celui d'arriver vers Claire et Suzanne en habillés en marcheurs. Hein, donc soit des bâtons, soit des chaussures de marche. Et puis si vous avez l'équipement total des années 60, c'est-à-dire le petit golf avec les chaussettes rouges et les chaussures de marche, eh bien pourquoi pas, ça peut être sympa pour les photos.
Nous sommes toujours, comme vous l'avez dit Florian, avec Suzanne Imbert. Et oui, notre défi, j'espère qu'il sera réalisé avant midi moins le quart. Mais justement, ça nous donne l'occasion de parler maintenant de l'équipement. Parce que quand on part, vous avez fait ce périple durant combien de temps?
Durant 6 semaines. Je suis partie le 3 mai 2023 et je suis arrivée à Santiago le 9 juin.
Donc, quand on fait un tel périple, ben, il en faut... des choses à mettre dans son sac. Alors, parlez-nous un petit peu de l'équipement que vous avez pris avec vous et comment ça se passait. Est-ce que vous pouviez faire des lessives, par exemple?
Alors, l'équipement, ben, comme c'était quand même la deuxième fois que je partais sur le Camino, je savais exactement ben, ce qu'il me fallait. Je savais qu'il fallait prendre vraiment que ce qui était indispensable.
C'est-à-dire?
Ben, c'est-à-dire des habits chauds, des habits pour contre la pluie, donc pour la pluie, et des habits légers, parce que les deux fois, j'ai toujours eu des moments où il a fait très chaud, donc il faut pouvoir s'habiller léger et être à l'aise. Donc, on pourrait en prendre le minimum. Et on peut faire nos lessives partout dans les gîtes, on peut faire nos lessives. Dans certains gîtes, il y a même des lave-linges et des sèche-linges. Bon, la plupart du temps, ben, moi, je le faisais à la main, comme la plupart des pèlerins. Comme aussi, j'avais la chance d'avoir une météo très ensoleillée. Donc, en arrivant au gîte, ben, tout le monde commençait par faire sa petite lessive, aller la pente dehors. De temps à autre, il m'arrivait d'utiliser une machine à laver. Mais j'essayais toujours de trouver une personne qui partage la machine, parce que c'est bien sûr impossible de faire une machine pleine. Et puis, ça coûtait quand même assez cher. Hein. Il demandait 4 euros la machine pour laver et 4 euros pour le séchage. Donc, je trouve que c'était quand même pas donné.
Et puis alors, marcher, les chaussures de marche, j'imagine, est-ce que vous avez pris qu'une paire de chaussures ou vous en aviez deux en réserve?
Ben non, j'en ai pris qu'une paire parce que franchement, des chaussures de marche, c'est lourd. Faut bien, alors, c'est aussi avec les chaussures de marche que je suis partie. J'avais mis ça au pied. Donc, pour ne pas devoir les mettre dans mes bagages. Et j'avais juste avec moi une petite paire de chaussures plates à mettre après les randonnées.
Ah oui, les fameuses tongs qui vous ont bien aidé et vous avez même marché avec.
Parce que mes chaussures, bon, j'ai vécu une mauvaise aventure avec mes chaussures de marche. Le lacet de la chaussure gauche, c'est croché au crochet de la chaussure droite. Donc, je suis tombée, j'ai fait une chute. Ben voilà, j'ai été blessée. Bon, assez violemment sur la tête aussi, parce que ça m'est arrivé sur un chemin caillouteux. Donc voilà, ça fait partie des aléas. Il y a des pèlerins qui me disaient « Ouais, tu devrais aller t'acheter d'autres chaussures. » J'ai dit « Ben non, c'est impossible. On ne peut pas avoir des chaussures neuves et puis continuer de marcher sur un périple tel que le Camino de Santiago. C'est pas possible. Il faut que les chaussures soient vraiment adaptées et formées déjà depuis quelques mois. »
Envie de prendre l'air jusqu'à midi, c'est l'air de jeu.
Et nous allons jouer maintenant avec Maria. Bonjour Maria, comment allez-vous?
Bonjour, très bien, merci.
Vous êtes une brenassière. Qu'est-ce qui vous plaît ici dans ce village?
Tous les gens. Ça fait 40 ans, j'ai marié un brenassier, donc j'adore ce village. Je ne partirai pas.
Est-ce que vous aimez marcher?
Oui, beaucoup.
Est-ce que ça vous tenterait de faire, comme notre invitée Suzanne Imbert, le Camino?
C'est un peu beaucoup pour moi.
Et ben, ça représente quand même pas mal de kilomètres.
Oui, tout à fait.
Est-ce que je vais vous demander de quel pays vous êtes originaire, Maria?
Et du Portugal.
Et de quelle région?
Du Douro, du Nord. Ouais.
Et quelles sont les spécialités de la région? Ou si quelqu'un va en vacances là-bas, qu'est-ce que vous lui conseilleriez?
Déjà dans ma région, le Porto.
Ah oui.
Et puis la morue, le bacalao.
Ah, le bacalao.
Yeah. Pastel natas. Et voilà, toute la cuisine de là-bas, quoi. C'est un peu tout le pays, je pense.
Alors, il y a un dessert, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, qui est très bon. C'est de la pâte, il me semble, feuilletée. Il me semble qu'il doit y avoir aussi de la vanille. C'est un petit peu brûlé dessus. Comment ça s'appelle?
C'est le pastel de natas.
Ah ouais, bah, oui, évidemment, alors je ne le prononce pas comme vous. Bon, après ce moment de bonne humeur, on va jouer avec vous, Maria. Voici votre jeu.
L'air de jeu, des paroles, une chanson.
Alors, je vais vous lire les paroles d'une chanson. À vous de m'en donner le titre. Est-ce que vous êtes prête?
Oui, allons-y.
C'est un grand succès de l'année 1985. Un des grands succès de ce chanteur français qu'apparemment vous appréciez et moi aussi. Voici ses paroles. Se rencontrer, séduire, quand la nuit fait des siennes, promettre sans le dire, juste des yeux qui traînent, quand la vie s'obstine, dans ses heures assassines, je suis riche de ça, mais ça ne s'achète pas, je m'en fous de tout, de ces chaînes qui pendent à mon cou, j'oublie. Alors, est-ce que vous avez trouvé la chanson?
Alors, c'est Jean-Jacques Goldman, Je marche seul.
Bravo Maria. Effectivement, Jean-Jacques Goldman, Je marche seul.
C'était ça, Claire. Je marche seul dans les rues qui... Un des cartons de Jean-Jacques Goldman, évidemment.
L'un de ses premiers succès avec Il suffira d'un signe, quand la musique est bonne. Oui, ça c'est les débuts de Goldman. Eh bien, bravo Maria, vous remportez une carte cadeau. On va regarder avec vous celle que vous allez recevoir. Vous êtes contente?
Oh oui, très contente, merci beaucoup.
Et maintenant, on est contente de vous avoir eu sur RTN. Bon dimanche.
Merci RTN et puis bon dimanche à tous.
10h, midi. Envie de prendre l'air de jeu.
Et on prend l'air au Brenet, sur les hauteurs, où j'imagine, Claire, vous n'êtes pas dans la peuf, vous n'avez pas de brouillard.
Non, pas de brouillard ici. Un temps plutôt agréable, un temps automnal, il ne fait pas froid. Et nous sommes toujours avec notre invitée, Suzanne Imbert, pour raconter son périple sur ce chemin de Compostelle qu'elle a réalisé donc l'année passée. On a vu ce que vous aviez comme bagage. Et ensuite, il y a un carnet de route, il y a d'autres choses qu'il faut vraiment avoir lorsque l'on fait ce pèlerinage. Vous pouvez nous dire ce que c'est?
Disons qu'il faut avoir un nécessaire de secours, juste l'essentiel, on va dire, mais vraiment avoir du désinfectant, des sparadraps, éventuellement des antidouleurs. Mais il faut bien se dire qu'on passe quand même dans beaucoup de villages où on rencontre des pharmacies et puis il ne faut pas se trop charger avec ce genre de matériel. Donc, je pense qu'à part les vêtements et puis le nécessaire de secours, évidemment, il faut quand même avoir un petit peu quelque chose à manger, quelque chose à boire, toujours sur soi. J'avais pas mal de fruits secs, ça, je trouve que ça aide quand on a un petit creux et qu'on ne trouve pas tout de suite une épicerie parce qu'évidemment, il faut s'approvisionner en chemin.
Vous avez pris quelques objets que vous aviez avec vous quotidiennement. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? On fera des photos que les gens pourront voir sur rtn.ch cet après-midi.
Ça, c'est la coquille de Saint-Jacques. Je l'avais achetée, c'est la fameuse coquille que tous les pèlerins ont sur eux. On l'accroche en général à son sac.
Et justement, c'est un repère pour montrer un petit peu le chemin.
Ils sont par terre aussi, donc il y a des coquilles en bronze qui sont sur le chemin, sur le tracé du parcours. Comme ça, on peut savoir qu'on s'est pas perdu, qu'on est juste. Quand on voit une coquille en bronze qui est sur le chemin sur lequel on se trouve, c'est qu'on est dans la bonne direction.
Voilà. Et puis là, c'est le carnet du pèlerin. Là,
c'est la crédentiale du pèlerin, c'est-à-dire que c'est le carnet, c'est une sorte de passeport qui nous permet qu'il faut composter dans les gîtes où l'on dort, et aussi on peut le composter aussi dans les églises qu'on va visiter. C'est la preuve qu'on a traversé toutes les localités qu'on veut bien dire. C'est-à-dire que aussi ce pèlerin nous donne l'accès à des gîtes pour pèlerins. Je crois qu'il y a certains gîtes qui n'acceptent pas les touristes qui n'ont pas ce carnet. parce que bon, bah, les gîtes sont quand même un petit peu meilleur marché que les autres auberges ou les hôtels. Et ils voudraient quand même que ce soit vraiment des pèlerins qui en bénéficient. Donc aussi, ce carnet, à la fin, nous permet d'obtenir un diplôme à Santiago. Et c'est la preuve qu'on a bien parcouru toutes les étapes qui sont tamponnées.
Envie de prendre l'air jusqu'à midi. C'est l'air de jeu.
Et jusqu'à midi, on suit ce périple, hein, celui de Compostelle. Moi, le seul périple que j'ai fait, c'est celui de ma porte jusqu'à vers mon compost. Oh, c'était un gaga de balles.
Oui, vous pouvez mettre 2 francs dans la cagnotte à gag. Et oui, l'appel de la Cruz de Ferro, l'appel de la Croix de Fer, qui est aussi un symbole, hein, sur ce chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. On le verra tout à l'heure avec Suzanne Humbert, qui est toujours notre invitée et qui nous fait partager donc, ben ce périple, ce pèlerinage qu'elle a réalisé l'année passée. Et on l'a vu, hein, le carnet du pèlerin, vous avez aussi une carte. Et puis ce fameux coquillage.
Oui, ce coquillage, en fait, il est censé protéger le pèlerin contre les mauvais sorts et les maladies, enfin les... ce qui pourrait arriver de néfaste pendant le chemin.
Donc, le chemin que vous avez parcouru représente plus de 700 kilomètres, hein, on l'a vu. Et vous êtes arrivée toute contente à Santiago, hein, qui est le point final. Mais en route, vous aviez aussi une mission bien spécifique.
Une mission, donc c'est personnel. En fait, c'est vrai que je suis partie, c'était en hommage à mon mari décédé. Et le moment phare du pèlerinage se situe justement à cette fameuse croix de fer qui est située à environ bon, un peu moins d'un tiers de la fin d'arrivée. C'est une montagne qui est faite et recouverte de cailloux, de cadeaux, de photos. Enfin, les pèlerins se déposent là en hommage à quelqu'un, un cadeau ou un hommage à la Vierge Marie aussi, un cadeau pour aussi se délester de certains sentiments, d'un certain mal-être ou s'il faut se débarrasser de quelque chose qu'on transporte avec nous depuis pas mal d'années. Et moi, j'avais envie justement de déposer là quelque chose, mais je vais pas le dévoiler ici du moment que j'ai écrit.
Oui, c'est très bien écrit dans votre livre.
Un livre qui s'appelle L'appel de la Cruz de Ferro, et ben je vais quand même laisser donner l'envie aux gens peut-être d'avoir envie de savoir ce que c'est que ce dépôt que j'ai fait.
Dans le livre, chaque jour, vous racontez ce qui vous est arrivé. Il y a eu des moments drôles, il y a eu des moments dramatiques. Dans les moments amusants, est-ce qu'il y a un souvenir que vous garderez toujours au fond de vous?
Ah oui, alors il y a eu dans un gîte un jour, donc c'était à Belorado. Je me rappelle qu'on avait, juste avant d'arriver au gîte, on avait ramassé un immense orage. On était arrivé mais complètement détrempés sur le chemin. On essayait de se rechanger, de se couvrir. Et puis on était heureux d'arriver enfin au gîte. Tout le monde, bon, tous les séchoirs, tous les fils dans les sanitaires étaient occupés. Enfin, c'était grand branle-bas de combat. Et là, moi, j'étais donc dans un gîte où il y avait un immense dortoir qui devait faire en tout cas 30 lits minimum, je pense. Un très, très grand dortoir. Et j'étais dans les sanitaires en train de me laver les mains. Donc, il y avait un grand lavabo. Et derrière, il y avait une série de WC, donc des portes de WC. Et tout d'un coup, j'entends quelqu'un qui frappe à une de ces portes. J'entends « Allô, allô ?» avec une personne qui avait l'air un petit peu paniquée. Et je me retourne et je vois une tête qui se dépasse d'une des portes de WC. Donc, visiblement, c'était un homme qui était sur le trône. Et puis, il disait « Ah, no paper, no paper !» Ça voulait dire qu'il n'y avait pas de papier. Et franchement, c'était difficile de ne pas éclater de rire. Mais bon, je me suis retenue et je lui ai dit que j'allais faire le nécessaire, et puis je suis allée à l'accueil et il a été tiré de ce mauvais pas assez rapidement.
10h, midi, envie de prendre l'air de jeu.
On va jouer, Claire.
Oui, et nous allons jouer avec Alexia. Bonjour Alexia, comment ça va?
Bien, merci beaucoup.
Vous avez des passions, des hobbies, vous aimez marcher peut-être ?
Oui, j'adore marcher en pleine nature, dans la forêt, j'aime bien. La musique, j'aime bien aussi.
Vous avez un groupe, un chanteur, une chanteuse que vous appréciez ?
Tous les styles, j'aime.
Chansons françaises, anglaises ou...
Plus de chansons françaises.
Et vous avez une charmante petite fille qui a un bien joli prénom. Comment tu t'appelles, mademoiselle ?
Chiara.
Tu vas à l'école ?
Au Corbusier.
Et qu'est-ce que tu aimes à l'école ?
Jouer.
On va jouer avec maman qui a choisi ce jeu.
L'air de jeu, le blind test.
Le blind test. Alors, je vais vous poser des questions sur trois chansons françaises. Il faudra me donner en tout cas deux bonnes réponses pour avoir une carte cadeau lundi. Si c'est trois bonnes réponses, c'est 30 francs. Est-ce que vous êtes prête, ma chère Alexia ? Voici ma première question. Quel groupe français a sorti au début des années 2000 cette chanson dont la version 2023 est avec Stéphane ?
Seulement regarde comme on est seul. On a parcouru le chemin. On a
alors, ce chemin, c'est qui ?
Kyo.
Bien, on passe au deuxième extrait. De quelle comédie musicale est issue cette chanson ? Interprété par Bruno Pelletier.
Il est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré dans un nouveau milieu.
La première a eu lieu en 1998, la première représentation. Il y avait aussi Hélène Segarra, il y a eu Patrick Fiori, il y a eu également Garou. Vous avez une idée ?
Le Roi Lion ?
À quel chanteur doit-on cette chanson sortie en 1969 ? Écoutez.
Qu'il est long, qu'il est loin ton chemin, papa. C'est vraiment fatigant d'aller où tu vas. Qu'il est long, qu'il est loin ton chemin, papa.
Alors, vous me dites, Alexia.
Joe Dassin.
Effectivement. Alors, bravo, le chemin, c'était bien sûr Kyo. La comédie musicale où l'on entendait Bruno Pelletier, c'était Notre-Dame de Paris.
Ah oh, ben oui.
Et puis Joe Dassin, et oui, Le Chemin Papa. Vous remportez, ma chère Alexia, une carte cadeau lundi de 20 francs.
Merci beaucoup.
Belle journée.
Merci vous.
Est-ce que vous avez des salutations à transmettre ?
À papa.
À papa, à papy, au pépé, et à tout le monde.
Oui.
Qui nous écoute. Une belle journée, un bon week-end. Merci beaucoup.
10h, midi. Envie de prendre l'air, l'air de jeu.
Bon Claire, on n'a toujours pas eu notre marcheur. Pourtant, au Brenet, ils aiment marcher quand même, le long du Doubs, vous avez ça chez vous.
Alors, vous voulez qu'on vous raconte une petite anecdote ? Il y a plein de gens qu'on a vus venir ici, qui étaient équipés pour aller... Mais évidemment, ce n'est pas des gens forcément qui habitent les Brenets, c'est des gens voilà, qui n'avaient pas le temps forcément non plus de s'arrêter. Et c'est des gens qui faisaient cette marche depuis ici pour aller jusqu'au Saut du Doubs. Mais nous, on marche également ce matin sur les traces de Saint-Jacques-de-Compostelle avec notre invitée Suzanne Imbert qui a donc réalisé ce périple l'année passée. Ce chemin pour elle, ça a été tout un symbole. Et on l'a vu, hein, ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Pas parmi les galères qui vous sont arrivées... Bon, tout a bien fini, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui, justement, vous rappelle un souvenir ?
Tout ce qui m'est arrivé, forcément, me rappelle des souvenirs. Donc, le premier problème que j'ai eu, c'est que j'ai eu une très, très grosse cloque sur le talon et qui a nécessité un arrêt de 6 jours dans une auberge, environ la moitié du parcours, un petit peu avant la moitié du parcours de Saint-Jacques. Et là, j'ai fait une rencontre, une dame texane qui était aussi là en arrêt parce qu'elle avait aussi un problème physique, elle avait un problème de genou. Et puis, on a passé beaucoup de temps avec cette dame et puis elle m'a un petit peu aussi ouvert la porte sur la spiritualité. C'était une dame qui méditait beaucoup, qui acceptait sa situation... Sans du tout se plaindre, quoi. Elle adorait être avec du monde, donc en étant quelques jours dans une auberge. Tous les jours, il y avait le débarquement de tout un nouveau groupe de touristes. Et je voyais cette dame, le soir, quand elle discutait avec les autres gens, elle échangeait, mais elle était transfigurée, quoi. Même si là, de la journée, elle adorait passer des moments seule, on passait beaucoup de moments ensemble à discuter, mais je sentais qu'elle avait aussi besoin d'être seule.
Et vous, est-ce que vous avez gardé certains contacts avec des gens que vous avez croisés ou ce sont des rencontres éphémères ?
Oui, dans l'ensemble, c'est des rencontres très, très éphémères. Par exemple, cette dame qui s'appelait Nacha, cette Texane, on a essayé l'une et l'autre de reprendre contact, mais je sais pas, soit elle m'appelait au mauvais moment, soit j'essayais de la rappeler et ça marchait pas. Mais il y a d'autres personnes avec qui que je garde. J'ai une personne, un jeune homme qui m'a vraiment aussi ouvert les yeux, qui m'a fait réfléchir sur la foi. Il s'appelait Victor et avec lui, on échange encore très régulièrement par message vocal. Et c'était vraiment une belle rencontre et oui, franchement, ça valait la peine de pas. Bon, même si on n'a pas passé beaucoup de temps ensemble, parce qu'il marchait aussi beaucoup plus vite que moi. Les hommes souvent ont un rythme un petit peu différent du rythme des femmes. Mais voilà. Et puis la semaine passée aussi, j'ai eu la visite d'un ami irlandais que j'ai aussi rencontré sur le chemin, avec qui on s'échange de temps en temps un message WhatsApp, et il m'a dit qu'il n'était jamais venu en Suisse. Donc j'ai dit, mais écoute, tu peux venir, je te guide volontiers. Et ben, c'est dommage, c'était exactement il y a une semaine, on était ici aussi, on est descendu jusqu'au saut du Doubs à pied, il a adoré tout ce que je lui ai fait visiter. On est allé à Berne, on est allé au saut du Doubs, on est allé dans la région de Chaux-de-Fonds aussi, se balader un peu sur les hauteurs, enfin... Très, très enthousiaste pour tout. Et puis, je trouve que ça ouvre de belles portes et à des très beaux, des très riches échanges.
10h, midi. Envie de prendre l'air. L'air de jeu.
Et RTN qui continue son périple, l'air de jeu qui continue son périple sur le chemin de De Compostelle, évidemment, avec Suzanne qui nous conte son aventure.
Et oui, et on a un temps magnifique, hein. Le soleil est là maintenant, enfin on l'avait tout à l'heure, mais il était juste derrière la maison devant laquelle on se tient, et puis là on a vraiment le soleil, c'est parfait. Nous allons maintenant évoquer votre souvenir, quand vous êtes arrivé après ces plus de 700 kilomètres dans la grande ville, hein, le point final à Saint-Jacques de Compostelle, quel a été le sentiment ? Est-ce que vous étiez heureuse ?
Oui, j'étais heureuse. Bien sûr, j'étais heureuse et soulagée, mais j'ai trouvé que l'arrivée à Santiago a été moins mémorable au niveau émotion que celle que j'ai vécue quand j'ai arrivé à Saint-Jean-Pied-de-Port en 2018.
Pourquoi ?
Bon, parce que Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est un petit village. Vous arrivez à la porte du village, vous savez que vous êtes arrivé, que c'est là l'arrivée. J'étais accompagnée de toute une équipe de Canadiens. Et quand on arrive à cette porte, on a tous commencé s'embrasser, à se féliciter et se prendre en photo. Il y avait des jeunes étudiants qui interrogeaient les pèlerins arrivant parce qu'ils faisaient un travail d'études, de fin d'études. Enfin, voilà, on se sentait vraiment dans le Camino. Mais Santiago, c'est tellement immense. Donc finalement, quand je suis arrivée à l'entrée de Santiago, j'étais toute seule. Bon, je savais qu'il y avait des amis qui avaient de l'avance sur moi et qui m'attendraient à la cathédrale. Mais je ne savais pas vraiment par où passer. Bon, parce qu'évidemment, c'est immense. On marche à côté d'une route qui a quatre voies. Vous savez que vous n'êtes en tout cas pas encore à l'intérieur de la ville. J'ai commencé de suivre des pèlerins qui étaient à 100 mètres, 200 mètres devant moi pour ne pas me perdre. Et puis, après, je suis entrée dans la ville. Je me dis, tiens, la ville, ça a l'air d'être là. J'ai marché. C'est une grande ville très touristique. Plein de monde partout. Mais pas forcément des pèlerins. Donc, il y avait de tout. Et nulle part, il y avait certainement un panneau cathédrale, mais que j'avais peut-être loupé, donc je me dis, j'y vais. Et c'était pas évident pour moi d'arriver.
Et quand vous avez découvert cette cathédrale, est-ce que vous avez ressenti de l'émotion ? Vous étiez comment à cet instant-là ?
Ah oui, alors là, quand j'ai vraiment vu que j'étais arrivée, alors il y a un grand, grand sentiment de soulagement qui s'est répandu en moi, mais... Je me suis pas sentie émue comme j'aurais cru. Je me disais, ouais, tu vas te mettre à pleurer, mais non, rien de tout ça. Il y avait plein de monde et bon, j'ai marché sur cette place et je me sentais un petit peu seule quand même. Et tout à coup, j'ai vu des amis qui m'avaient promis de m'attendre. Il y avait Gégé, il y avait Toté, il y avait, ils étaient là. Et Suzanne, t'es là, bravo, félicitations. Et une autre amie avec qui j'avais marché, qui s'appelait Christina, une Canadienne, qui arrivait en me sautant au cou. Et tout d'un coup, il y a eu plein d'embrassades, plein de retrouvailles. Et puis, ça a été juste magnifique. Mais par rapport à l'émotion que j'imaginais, ça n'a été que plus tard, quand je suis allée à la messe. Parce qu'il faut savoir qu'à Santiago, ils font 4 messes par jour pour les pèlerins, parce qu'il y a des milliers de pèlerins qui arrivent chaque jour. Ils en font une à 9h, ils en font une à midi, ils en font une dans l'après-midi et une le soir. Donc j'avais envie d'aller à celle de midi. Et c'est là vraiment que, là, quand je suis rentrée dans cette cathédrale, mais juste magnifique, et devant ce service religieux, où franchement, j'ai vraiment pu lâcher mes larmes, quoi. Franchement, c'était vraiment une très, très grosse émotion. Et j'ai remercié l'univers, j'ai remercié la Vierge Marie, j'ai remercié tous mes guides qui m'avaient accompagnée et qui, malgré toutes les épreuves que j'avais subies, m'avaient quand même permis d'arriver au bout.
10h, midi, envie de prendre l'air, l'air de jeu.
Nous sommes toujours avec Suzanne Imbert pour évoquer son pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, pèlerinage qu'elle a réalisé l'année passée. Et finalement, une fois que vous avez effectué ce pèlerinage, Suzanne, comment vous vous êtes sentie? Est-ce que maintenant vous êtes, on peut dire, en paix avec vous-même et grâce à ce que vous avez accompli sur ce chemin?
Si c'est grâce à ce que j'ai accompli sur son chemin, je ne peux pas le garantir, mais effectivement, je me sens bien. Je suis allée au bout de ce que j'avais décidé. Et vraiment tout au bout, parce que je suis encore allée plus loin que Santiago. Santiago, donc, c'est la cathédrale. Mais si on veut vraiment aller au bout du chemin, il faut aller jusqu'à Cap Finistère, à quelques kilomètres de là encore. La plupart des pèlerins le font à pied. Mais moi, vu que j'avais quand même été pas mal ralentie par certaines épreuves physiques, je me suis offert une petite course d'école là, en bus. On est allé jusqu'à Finistère, qui est donc c'est le Cap Finistère, ou Fisterra en espagnol. C'est le lieu emblématique vraiment, qui est la fin, le bout de quelque chose. C'est un symbole très fort au bord d'océan. Et là-bas, il y a la borne zéro, où tous les pèlerins veulent se faire photographier. C'est vraiment la fin du Camino. Et si on va à Finistère, il faut encore, pour faire bien, aller jusqu'à Muxia, qui est encore à quelques kilomètres de plus, parce que si Finistère signifie la fin de quelque chose, Muxia signifie la renaissance. Et moi, j'étais là, je suis allée aussi à Muxia, et j'ai planté une petite graine pour faire pousser une fleur à Muxia, puisque pour vraiment montrer que ce soit concret, ce signe de renaissance.
Est-ce que vous repartiriez sur ce chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle par un autre itinéraire, ou vous l'avez fait une fois et c'est bon?
Moi, je pense que... Moi, je dis, quand on me pose cette question, je réponds, ah non, c'est bon, je l'ai fait, maintenant j'ai bon. Mais en y repensant, à un moment perdu, il y a une telle ambiance sur ce chemin par rapport aux rencontres, par rapport aux imprévus qui nous arrivent, à cette vie qui est quelque chose de magique dans l'air, tout le temps quand on marche seul avec soi-même. Et puis je me dis, mais pourquoi tu ne ferais pas un bout sur le Portugal? Parce qu'on peut continuer. Donc voilà, ça n'est peut-être pas très longtemps que ça existe, mais je sais qu'il y a plein de gens qui vont jusqu'à Porto. Puis en même temps, je me dis, bon, ben, finalement aussi, tu avances en âge. Et puis je pense que physiquement, ben, je n'ai plus tellement de ces années devant moi pour faire encore de si grands périples.
Oh, coquine.
10h, midi, envie de prendre l'air, l'air de jeu.
Et on va retourner une toute dernière fois au Brenet, où on a évoqué donc ce périple de Compostelle tout au long de cette matinée, une aventure passionnante selon Suzanne, et on a pris plaisir à l'écouter.
Et oui, effectivement, il en est ressorti un livre, hein, que vous aviez écrit. Est-ce que vous avez pris des notes pendant votre trajet ou c'est en rentrant que vous vous êtes mis au travail pour raconter chaque jour ce qui vous est arrivé?
Bon, je tenais un journal de bord, bien sûr, parce que sinon on ne peut pas se rappeler de tout. Mais bien sûr, je relevais les choses un petit peu en signe télégraphique, juste pour me rappeler. Et je savais qu'au retour, j'avais envie d'écrire toute l'histoire de ce chemin. Et je l'ai fait donc tous les matins, je me rappelle, j'ai mis à peine un mois pour faire le premier jet de mon livre, parce que tous les matins, je me levais à 5 heures. Je trouvais que c'était la bonne heure pour travailler là-dessus. Et j'écrivais une étape que j'envoyais j'avais créé un petit groupe de travail qui me suivait, qui me donnait leur avis et qui m'ont aidé à faire les corrections aussi par la suite. Et je leur envoyais tous les matins une nouvelle étape. Et ils ont été toutes les dames de ce groupe étaient tellement enthousiastes que c'était un véritable moteur. Et puis ça m'a permis de faire le premier jet en à peu près un mois.
Est-ce qu'il y a des gens qui ont lu votre livre et qui se sont dit, ah, tiens, on irait bien faire ce chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle?
Alors, personne ne me l'a dit, en tout cas. J'ai eu beaucoup de retours très positifs de mon livre. Les personnes qui l'ont lu me disaient souvent, ah, quand on commence son livre, on ne peut pas le lâcher. Je l'ai lu en un jour, je l'ai lu en deux jours. On a toujours envie de savoir. Et puis, c'est une écriture qui est proche de n'importe qui. C'est peut-être pas le grand style littéraire. J'ai un ami aussi qui écrit un petit peu aussi pour lui. Il parle un petit peu d'une écriture naïve. Mais
je crois que c'est comme ça, tout le monde comprend finalement.
Je pense que la personne qui a envie de lire ça, il me suit dans mon histoire. C'est vraiment comme si je le racontais.
Et si par exemple, si quelqu'un vous dit, j'aimerais bien faire ce chemin de Saint-Jacques de Compostelle, quels sont les conseils que vous donneriez à cette personne?
Déjà, je lui dirais que si elle a il faut quand même avoir un petit peu une bonne forme physique et être en bonne santé, ça c'est la première chose. Mais je pense que la première chose qui est importante, c'est d'avoir la motivation. Et si on a envie de le faire, je pense qu'il faut se pousser. C'est clair que c'est des fois difficile de sortir de sa zone de confort, ça demande quand même ça. Il faut quand même oser sortir un petit peu de sa zone de confort. Mais après, on atteint un niveau de liberté juste incroyable, mais qui n'est possible que lorsqu'on se donne la possibilité de sortir de sa zone de confort.
Bon, en tout cas, merci d'avoir été avec nous et de nous avoir fait partager votre pèlerinage. On vous souhaite bonne suite.
Je vous remercie infiniment. Tout le plaisir a été pour moi. C'était vraiment très, très gentil à Claire de m'avoir invitée.